monnaie, monnaie. Je suis Toto, je suis Total, totalement perdu sans étoile. Comme un oiseau dans le gasoil, un albatros sans idéal. Nos capitaux, le capital, dans la course au profit, la bourse, c'est la vie. C'est le blues de l'artiche, du flouze, du bacchiche. Deus, Deus, c'est le nouveau Deus.
Autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme on a mes consciences, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Je vais faire une belle surprise à mon mari pour son anniversaire. Oh, elle est belle cette cravate, il sera très content. Mais quoi? Il est là au lit avec une autre femme? Oh, mon Edmond, nom de nom. Mon Edmond, nom de nom.
Bonjour auditeurs, auditrices de Radio Libertaire. Et aujourd'hui, c'est Sylvie Spassem, comme tous les premiers de chaque mois. Elsa est avec moi.
Bonjour, chères auditrices. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, papa.
Bonjour, Elsa, ma fille. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler de beaucoup de choses qui ont rapport au gouvernement et sur aussi la qualité de vie que veulent nous imposer tous ces gros groupes qui nous donnent à manger et à boire, soi-disant. Mais tout est malsain parce que tout est pollué. Donc Elsa pourrait vous lire tout à l'heure quelques petites fioritures bien non décarcassées. Voilà. Et je voulais vous dire que l'Union Pacifiste fait partie de la section française de l'Internationale des résistants à la guerre. Et nous sommes au 66 boulevard Vincent Auriol, dans le 13e. Et si vous voulez leur écrire, il y a une adresse mail, www.unionpacifiste.org. Voilà. Et si vous voulez vous abonner au journal, ce sera 30 euros annuels. Et si vous voulez vous abonner à l'Union Pacifiste pour encourager encore plus les idées à se développer, c'est 25 euros. Tout ça, c'est les prix annuels. Donc, un don de 60 euros, ça sera le bienvenu pour nos caisses et aussi pour les idées que nous défendons. À toi le temps.
Alors, pour commencer cette émission, tout d'abord, une bonne nouvelle. C'est quand même une bonne nouvelle. C'est en rapport avec l'engouement pour les voyages en train. Alors, moi-même, avec papa, on a préparé des vacances pour aller en Italie. Nous avons choisi le voyage en train. Et j'ai vu la difficulté qu'il y avait pour réserver les billets, pour la simple bonne raison qu'il y a tellement de personnes connectées sur sncf.com. Il y a tellement de personnes qui appellent le numéro unique à présent de la gare SNCF. Et alors, à l'intérieur des gares, les files d'attente, que ce soit pour les automates ou les guichets, ça ne désemplit pas. Alors, bravo pour toutes les personnes qui ont décidé d'opter pour les voyages en train par rapport aux voyages en avion. Ça, c'est très très bien. Bravo. Maintenant, ce qui ajouterait ça serait bien socialement et bien sûr pas uniquement pour la filière des trains. Ça serait bien aussi pour les autres filières. C'est l'embauche. Alors, le gouvernement fait des coupes budgétaires. La bonne défense qui est liée à la défense verte, c'est l'embauche. Le meilleur moyen de foutre une claque à ce gouvernement, c'est d'embaucher. Donc si parmi les auditeurs, il y a des syndicalistes, alors je vous le dis, le meilleur moyen de résistance, c'est d'embaucher. Embaucher du personnel pour répondre aux besoins téléphoniques quand les personnes, les particuliers téléphonent pour réserver leur billet de train, pour remplir les guichets de façon à ce que l'attente soit moins longue pour ceux qui viennent directement à la gare acheter leur billet. Et bien sûr aussi du personnel informatique pour ceux qui passent par l'ordinateur. Voilà. Et j'enchaîne avec un article, bon là qui est un peu moins positif hélas, c'est de la bannière Greenpeace. Ça concerne l'eau. Préserver l'eau, une urgence vitale. Les alertes sur l'état des ressources en eau douce ont beau se multiplier, les actes concrets pour préserver ce bien commun vital manquent encore. Face aux conséquences du changement climatique, de la surconsommation, de la pollution et des inégalités, il y a pourtant urgence à agir. Des terres calcinées, plus une goutte d'eau potable au robinet et des balais de camions poussiéreux contraints de parcourir des kilomètres pour livrer le précieux or bleu. Ce scénario n'est pas une fiction. En août 2022, plus de 700 communes françaises étaient privées d'eau potable, ce qui a nécessité des livraisons par camion-citerne. Malgré un été 2023 pluvieux, la situation reste très critique. Au mois d'octobre dernier, 89 départements de métropole étaient concernés par une vigilance sécheresse et des restrictions d'eau. Face à cette situation alarmante, le gouvernement a appelé les citoyennes et citoyens à économiser l'eau au cœur de l'été, tout en autorisant des dérogations pour des usages non essentiels tels que l'arrosage des golfs, alors que les causes profondes du problème sont connues. le changement climatique et la surconsommation d'eau liée notamment au modèle agricole et énergétique actuel. L'agriculture est le plus gros consommateur d'eau douce en France, comme dans de nombreuses régions du monde, avec 45% de la consommation nationale annuelle. L'essentiel est en réalité monopolisé par l'agro-industrie, notamment l'élevage industriel. Pour exemple, le maïs, principalement destiné aux animaux d'élevage, occupe à lui seul la moitié des surfaces irriguées en Europe. C'est vrai que le maïs, très gourmand en eau. Projets absurdes et fausses solutions se multiplient pour contribuer à abreuver ce modèle agro-industriel au détriment de systèmes plus économes, justes et respectueux de l'environnement. C'est le cas des fameuses méga-bassines, qui s'inscrivent dans ce système polluant massivement les milieux aquatiques à grands coups d'engrais chimiques, de pesticides et d'effluents. Notre modèle agricole doit changer si l'on veut préserver nos ressources en eau. Comment ? Nous devons commencer par mettre en place un moratoire sur les fermes-usines, puis promouvoir des solutions sobres et moins polluantes telles que l'élevage écologique et soutenir massivement des filières végétales pour l'alimentation humaine. Notre modèle énergétique doit lui aussi être revu. L'industrie nucléaire, qui a besoin d'eau pour refroidir ses réacteurs, s'avère être le troisième principal consommateur d'eau douce en France, juste après l'agriculture et les besoins en eau potable. Je vous réinvite à réécouter la première émission du mois dernier concernant le nucléaire. Avec l'augmentation des canicules, des sécheresses et des inondations, les réacteurs nucléaires font face à plusieurs risques liés aux ressources en eau. Débit des fleuves réduit, hausse de la température des cours d'eau, risque de submersion, etc. La sortie urgente des énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz, néfastes pour le climat, demande donc aussi qu'on prenne en compte la vulnérabilité des moyens alternatifs de production d'énergie et leurs conséquences sur les ressources en eau. Un soutien aux énergies renouvelables plus rapidement déployables et moins risquées que des réacteurs nucléaires face aux catastrophes et aléas climatiques est donc indispensable. Enfin, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, responsable du changement climatique, est primordial pour limiter les dérèglements du cycle de l'eau et préserver nos ressources. Nous devons tout faire pour respecter la trajectoire de l'accord de Paris, grâce à des politiques climatiques ambitieuses. Cela ne pourra se faire sans des mesures de sobriété et de réduction des inégalités dignes de ce nom. Garantir l'accès à l'eau à toutes et tous supposent de satisfaire en priorité les besoins locaux, vitaux et nourriciers du plus grand nombre, plutôt que ceux des multinationales agroalimentaires tournées vers l'export, des terrains de golf ou des grands complexes hôteliers aux mains d'une minorité privilégiée. Aujourd'hui, l'heure n'est plus seulement à inciter les particuliers à faire des efforts individuels, certes nécessaires, mais insuffisants. Il y a urgence à prendre des mesures fortes et efficace contre les surconsommations et contraignantes pour les plus gros consommateurs et pollueurs. L'eau est une question de démocratie et de survie. Alors, juste un récapitulatif. Les méga-bassines sont de gigantesques ouvrages de stockage d'eau destinés à répondre aux besoins de l'agro-industrie, particulièrement en période estivale. Pour les remplir, il faut notamment pomper dans les cours d'eau et les nappes phréatiques, ce qui ne fait qu'accroître la pression sur la ressource. 15 projets de méga-bassines ont été annulés par la justice en Nouvelle-Aquitaine en octobre dernier. De nombreux autres projets sont toujours à l'étude partout en France. Alors, les fermes-usines, c'est des exploitations gigantesques au nombre de 3010 en France, ne représentent que 3% des fermes d'élevage, mais concentrent près de 60% des animaux. 70% de l'eau utilisée par l'humain sert à produire de la nourriture, principalement par l'irrigation des cultures et l'alimentation du bétail. Un quart des cultures mondiales sont irriguées, mais environ un tiers d'entre elles sont déjà confrontées à un stress hydrique extrêmement élevé. Source World Resources Institute. 59%, c'est la baisse observée depuis un an de la déforestation en Amazonie brésilienne. Une tendance à relativiser, la région subit une grave sécheresse et la déforestation s'accélère dans le Cerrado. 0 g de CO2, c'est ce qu'a permis d'économiser l'EPR de Flamanville, dont le chantier accuse désormais 12 ans de retard. 83, c'est le nombre d'États qui ont signé le traité mondial sur les océans. Un signe encourageant pour la prochaine étape de ratification par chaque pays. Il en faut 60 pour que le traité entre en vigueur. 2 entreprises françaises ont été condamnées pour commercialisation illégale de bois issu de l'Amazonie. Une première pour la justice française et la fin de l'impunité pour les importateurs peu scrupuleux. 800 femmes enceintes ont bénéficié de paniers de légumes bio gratuits l'année dernière, un projet innovant de la ville de Strasbourg. Une petite pause avant la lecture d'Yves Lecard.
Vous qui m'épargnez la jeunesse, vous qui ne savez l'écouter, vous qui ne voyez que les fesses des filles et passez à côté de ce qu'elles ont dans la cervelle, sous leur chevelure mal peignée, se foutant de paraître belle à votre propre désignée. Alto con. Vous qui qualifiez de loubards tous les taggers et les rappeurs, et pire encore quand ils sont noirs, vous qui souvent en avez peur sans que jamais dans votre tête vous n'entachiez d'un moindre doute cette certitude simplette d'avoir choisi la bonne route. Mort au con. Vous auriez pu imaginer que s'ils se mettent à l'écart de votre monde suranné en vous qualifiant de ringard, c'est peut-être de votre faute. N'en avez-vous la moindre idée? Et votre morale, s'ils la sautent, qu'avez-vous fait pour les aider? Pauvre con. Vous qui vous mettez des œillères pour ne pas voir les sans-logis et dans des oreilles des pierres pour ne pas entendre les cris des torturés, des isolés, des victimes de toutes les guerres, enfants tués, femmes violées, familles expulsées de leurs terres. Honte aux cons. Vous qui mettez dans le même sac drogués, homos, gitans, poètes, et appréhendez leurs attaques quand ils redressent un peu la tête, vous qui vous donnez bonne conscience en pratiquant dans vos églises le culte de l'intolérance sans voir les couteaux qui s'aiguisent. Mort au con. Vous qui méprisez la sagesse de ceux qui possèdent un passé, ceux qui prolongent leur jeunesse sans jamais vouloir l'oublier, vous qui croyez qu'après 30 ans c'en est fini de la gamberge, qui ignorez qu'à 60 ans on peut être plus jeune qu'à 20 berges. Pauvre con! Vous ne mettez pas en question ce piètre confort imbécile d'un petit bonheur sous gestion d'une imagination stérile. Vous êtes des clones de milliers de pauvres cons sur la planète pour qui seuls comptent les billets qu'ils entassent dans leur cachette. Honte aux cons! Halte aux cons!
Oui, il y en a trop sur Terre. Et il y a tant d'intelligences qui sont complètement étouffées. Donc, je vais vous lire l'édito de Yves Lecard, qui est de notre dernier numéro mensuel de mars 2024, qui est sorti très récemment. Voilà. En rampant, rampant comme des randonnions. Tu seras un homme, mon fils, c'est bien connu. Être un homme, être viril, courageux, fort. Être un homme du rang, un homme qui a du cran d'arrêt surtout. En rampant deux, un, deux, un, deux, en rampant Dieu, ou quelque autre idéologie. En rampant, oui, en rampant, quel paradoxe. Les valeurs que les siècles ont forgées, en théorie, sont complètement niées dans la pratique. Et il parle de mourir debout. Couvert de boue, oui, à force de ramper, n'est-ce pas le propre, si je puis dire, du militaire, que de ramper. Au sens propre, il faut savoir ramper, sinon romper, R-O-M, ce qui voudra beaucoup mieux. Il suffit de changer une voyelle et vous voilà libre. Vous êtes digne, non pas digne d'un don, ce sera écloche, de la force, de leur force, de leur garce. Vous voilà humains plutôt que des numéros. Vivre en rang comme les harengs, pour citer Brassens, ce n'est pas vivre. Obéir, ce n'est pas vivre. Suivre, ce n'est pas être. Ce n'est pas penser, ce n'est pas vivre. Ne dit-on pas « je pense donc je suis » ? Je suis les ordres, je suis les autres, je suis le mouvement. Mais le verbe « suivre » est le contraire du verbe « être ». Soit je suis, soit je suis, soit tu suis, soit tu es. Il faut choisir. Ou moisir. Être un homme en rang, un homme en rampant, ramper, se glisse sur le sol, dans la gadoue, au besoin. Tiens, gadoue, ça ressemble bien à un ordre militaire, hurlé et abrégé par précipitation, non par météorologique, mais oratoire, oral, dont on s'entend que les syllabes garde à vous, gadoue remont, gardons-nous plutôt que je garde à vous, préservons-nous plutôt que de vous servir. Vous servir de pantin, de marionnette, de petit soldat, faire l'armée fait des hommes. C'est cela ce que l'on entendait jadis, naguère, et aujourd'hui encore. Qu'il fasse l'armée, ça lui mettra du plomb dans la cervelle. Ou un sens figuré qui dit bien ce que ça veut dire. Du plomb, oui, du plomb, la joie. C'est drôle, comme dans toutes les nations, l'armée procède de la même façon, avec les mêmes simagrées, les mêmes balais, les mêmes ballots, les mêmes balours. Il parle de mourir debout plutôt que vivre à genoux. C'est toujours ce même slogan qui justifie les massacres, les massues, comme le général Massue de l'Algérie, les masses de suiveurs, de marcheurs, au pas cadencé. De partout, ils parlent de mourir debout. Ils ne sont ni debout, ni à genoux, ni pour leur prière. Ils sont couchés, ils sont rampants, ils sont rampus, ils sont rebuts, et rien ne les rebute. Qu'est-ce que c'est que cette dernière trouvaille ? Le service national universel. Service, c'est le serrer la vis, avec un trait d'union. National ou universel, les deux, hélas, puisque tous, de toute leur nation, de tous leurs bastions, n'ont d'autre horizon sous l'égide de l'organisation terroriste de l'Atlantique Nord, qui n'a de cesse que d'attiser le feu, d'autres horizons, d'autres raisons que la guerre, préparer la guerre, non pas pour l'empêcher, pour la rendre inévitable, eh bien, préparer le peuple à la croire inévitable, à s'y préparer. Mais ce qui est national, par définition, comme ce qui est régional, ce qui est local, n'est pas universel. L'univers est bien plus vaste que les frontières exiguës imposées par les hommes, non, par des guerriers. Les guerriers qui ont toujours été empereurs, les rois, les chefs d'État, les chefs d'État, chef d'État, d'obéissant, de suiveur, de rampant, d'homme de rang, prêt à servir, prêt à donner leur vie et celle de leurs enfants pour ce désuet gadget qu'on appelle patrie. La seule chose qui soit à la fois nationale et universelle, c'est précisément cette bêtise qui, au lieu de rapprocher les peuples, les sépare, les éparpille, les pille, les pupille, les torpille, les torture, les tue. L'universel, c'est bien, c'est très bien. Mais quand l'univers nuit, quand l'univers ennuie, quand l'universel nuit pèse, quand l'universel nuit pèse sur l'univers, pour emprunter à Lamartine l'une de ses nombreux alexandrins percutants dans le bon sens du terme, c'est-à-dire capable d'amener à réfléchir, à penser, non à obéir, non à ramper. Alors l'univers est bien malheureux. Mais qui donc a tiré l'univers de la nuit ? S'interrogeait le grand Jules Laforge, trop tôt parti pour en dire davantage. Qui l'attire dans la nuit ? C'est la question plus facile. Nous avons la réponse. L'univers n'a pas besoin d'uniforme. L'univers n'a pas besoin d'armée. L'univers a besoin de formes unies, de femmes et d'hommes unis, l'univers n'a pas besoin de service national, mais de cervelle rationnelle. C'est tellement gros, tellement énorme, leur manigance, leur manipulation, leur abomination et leur désolation. Merci Brassens. Et ça, obéir reste le mot d'ordre. Obéir qui rime avec avilir. Il faut s'unir pour abolir injustice et pauvreté. Il faut, mes frères, préparer le jour de clarté. Mon pauvre Graham, de Graham Allwright, depuis ta chanson, depuis plus de 50 ans, d'autres avant lui, comme Pete Seeger et autres, comme combien de poètes, combien d'utopistes trop réalistes, et pourtant le monde, sous la coupe de criminels, n'a pas évolué. Ce serait pourtant le bon moment, puisque les bellicistes de tous bords se mettent tous d'accord pour préparer l'enfance à la soldature qui mène à la dictature, qui mène au massacre. Pardon. Alors, où l'on rend hommage à celui qui a aboli la peine de mort, tout en restant ami avec l'ancien ministre devenu président, qui le pratiqua en Algérie, et resta ami lui-même d'un nazi notoire. Tout en continuant à l'appliquer, cette peine de mort, de la façon la plus généralisée qui soit. Sur les champs de bataille, c'est le moment ou jamais de pratiquer la désobéissance civile. Celle-ci est pourquoi pas universelle. Certains enseignants, certains parents, certains syndicats ont commencé à réagir, à s'opposer à l'ignoble militarisation de l'enfance qui commence par l'uniforme, se poursuit par l'apprentissage de l'obéissance, du non-sens, de l'indécence, de l'imbécilité criminelle. Nous ne voulons plus la guerre, nous ne voulons plus de sang. Reprenons ce refrain derrière Jean Ferrat, qui nous quitta en mars. À l'aube d'un printemps qui nous attend toujours. Le livre de Pinar Selek, Le chaudron militaire turc, est passionnant. Il démontre et démonte le système qui, à quelques variations près, est la même chez nous, le même partout. Marcher au pas, ne pas réfléchir, mais fléchir. Obéir, obéir, obéir et ramper en rang, mais sans paix. C'était l'intro de Yves Lecard. Alors, musique.
Réjouissant, non ?
Il n'y en a plus un sur 100, et pourtant, ils existent. On les cherche dans la rue avant chaque élection, mais ils ont disparu. Ne reste que leur nom, les socialistes. Dire que pendant 5 ans ils étaient tout puissants, mais ils ont tout gâché comme un enfant gâté à qui on pardonne tout et qui tape son joujou et après vient chialer parce qu'il est tout pété. Il y en a plus un sur 100 et pourtant ils existent. Si les ours, les abeilles commencent à vous lasser, voici une autre espèce fraîchement menacés, les socialistes. Ils sont tellement tirés de balles dans le pied que leurs pompes à 200 balles sont devenues des sandales. Ils se sont ramassés, et puis pas qu'à moitié, ils ont merdé si fort qu'ils ont Olivier Faure. Il y en a plus un sur 100, et pourtant, ils existent. Ils s'étaient déjà barrés bien avant l'élection. D'un côté pour Macron, de l'autre pour Macron, les socialistes. Hollande refleurie, en star des librairies, dédicace son bouquin à des fans en furie. Ça doit quand même faire drôle de passer de l'Élysée à l'espace culturel du Leclerc de Morlaix. Il n'y en a plus un sur 100, et pourtant, ils existent. Ils veulent faire renaître la gauche. Mais est-ce qu'ils s'imaginent qu'un assassin peut faire renaître sa victime, les socialistes?
C'était Les Goguettes, tiré de leur album Globalement d'accord. Là, c'était un live. Elsa ?
Alors, je vais lire un article qui date du 31 janvier de 2024. Donc, bon, d'accord, c'était il y a 2 mois. Et Monsieur Bessa, je m'excuse d'avance. Cet article vient de la France Insoumise. Mais comme ça concerne les femmes, j'en fais partie et je suis entièrement d'accord avec le titre « Nos corps ne sont pas des armes ». Je le lis avec 2 mois de retard. Donc l'IVG est passé dans la loi constitutionnelle, ça c'est très très bien. Mais les risques concernant les femmes sont toujours d'actualité. Donc, ce texte est toujours d'actualité. Annonce du président, nos corps ne sont pas des armes. Emmanuel Macron a annoncé ce mardi 16 janvier 2024 son plan de lutte contre l'infertilité, prônant un réarmement démographique. Contrairement à ce que laissent entendre ces injonctions militaires et virilistes, nos corps et nos enfants ne sont pas des armes à sa merci. En mettant en avant la nécessité de lutter contre la baisse de la natalité, Emmanuel Macron reprend le vocabulaire et l'obsession de l'extrême droite. Un choix éminemment politique, en pleine montée du fascisme menaçant directement les droits des femmes et des enfants, alors que la grande cause du quinquennat n'était qu'un coup de communication sans volonté ni résultat politique. La rhétorique du réarmement démographique et la mise en place de politiques natalistes ne peuvent que nous inquiéter. Elles menacent les droits et la santé reproductive et sexuelle des femmes et personnes LGBTQI et représentent une régression politique et sociale préoccupante, contraire à l'autonomisation des personnes. Le gouvernement propose ainsi d'assigner les femmes cisgenres au travail reproductif pour servir un enjeu capitaliste au relent militaire, objectivant leur corps, déjà de plus en plus contrôlé et violenté. Cette déclaration est encore plus choquante à la veille des 49 ans de la loi Veil, dépénalisant l'interruption volontaire de grossesse, IVG, et du vote en commission des lois de la constitutionnalisation de l'IVG. Ces propos démontrent encore plus fortement la nécessité d'une telle constitutionnalisation face aux menaces qui pèsent sur le droit des femmes à disposer de leur corps. Un combat porté par nos députés insoumis et que nous continuerons à mener dès le 24 janvier prochain en hémicycle. Les maires, grandes oubliées des politiques publiques. Si Emmanuel Macron souhaitait réellement soutenir la parentalité, il devrait d'abord commencer par la rendre matériellement possible. Or, d'après la Fondation des femmes, la maternité et la natalité sont socialement valorisées, mais les normes patriarcales nous conduisent à invisibiliser et minimiser les difficultés spécifiques et coûts qui pèsent sur les femmes et les pénalise davantage. Un coût à la fois professionnel, physique, psychologique et économique. Discrimination au travail. Frais de santé peu remboursés. Garde-robe adaptée à la grossesse. Congé maternité court et peu indemnisé. dépression, post-partum, jours de congé pour enfants malades, travail domestique gratuit, etc. Les femmes sont également les plus touchées par les politiques antisociales du gouvernement, notamment les mères et davantage encore les mères isolées. La précarisation des femmes et des familles porte atteinte à leurs conditions de vie matérielle et aux droits des enfants. Elles sont ainsi confrontées à une multitude de difficultés économiques et sociales qui viennent s'ajouter au coût de la maternité. Inflammation, baisse du pouvoir d'achat, chômage et temps partiel subi, mal logement, inégalité d'accès aux modes de garde, etc. L'appauvrissement de la population, la diminution du montant de certaines prestations sociales et le durcissement des conditions d'éligibilité ne sont pas de nature à encourager les familles à accueillir les enfants qu'ils souhaitent. Or, les macronistes ont rejeté, sabordé ou se sont abstenus de voter toutes nos propositions pour soutenir les familles, notamment monoparentales, et lutter contre la précarité. Ils et elles ont par exemple voté contre la déconjugalisation de l'allocation de soutien familial et saccagé notre commission d'enquête sur les dérives des crèches privées. Ils et elles ont également rejeté nos propositions visant à augmenter le SMIC ou encore indexer les salaires sur l'inflation et n'ont pas inscrit à l'ordre du jour celles visant à revaloriser les métiers féminisés. Le discours du président encourageant à faire plus d'enfants est pourtant hypocrite, ne concerne en réalité pas toutes les femmes. On se rappelle en effet de sa réécriture raciste et imaginaire de la démographie africaine. Quand vous avez 7 ou 8 enfants par femme, vous ne sortez jamais de la pauvreté. Citation 2018. D'un côté, la natalité est un problème dans les pays dits en voie de développement, mais en France, il faudrait l'encourager. On peut noter aussi le durcissement des conditions d'obtention de la nationalité française pour les enfants nés en France de parents étrangers, dans le projet de loi Darmanin. Emmanuel Macron, rappelant les révoltes urbaines suite à la mort du jeune Naël, a aussi ciblé dans son discours les maires des quartiers populaires, qu'il faudrait responsabiliser. Il stigmatise ainsi de nouveau les familles défavorisées, alors qu'elles sont les grandes oubliées des politiques publiques et travaillent majoritairement dans les métiers de la petite enfance. Un travail du lien féminisé très dégradé, mais essentiel à l'accueil et aux soins des enfants. La santé des femmes, un enjeu primordial. Une autre hypocrisie du gouvernement réside dans la casse organisée du service public de la santé. Réduction des moyens, démantèlement des services publics, développement de la concurrence. Un choix politique qui aboutit à la fermeture croissante de maternités, services pédiatriques et gynécologiques, rendant de plus en plus difficile aux femmes et aux enfants la possibilité de se soigner. Comment le gouvernement peut-il prétendre lutter contre l'infertilité sans moyens supplémentaires pour la santé, notamment des femmes, impactées par des maladies sous-diagnostiquées et méconnues, comme l'endométriose ou le syndrome des ovaires polykystiques? La Macronie n'a pourtant donné aucune suite aux propositions que nous avons portées pour reconnaître l'endométriose comme une maladie longue durée ou pour inscrire dans la loi des violences obstétricales et gynécologique, qui porte atteinte au droit à la santé des femmes. Enfin, Emmanuel Macron aurait pu choisir de lutter contre certaines causes de l'infertilité, la pollution de l'air, les perturbateurs endocriniens, les pesticides, les insecticides, etc. Mais à Bruxelles, il a préféré soutenir le renouvellement du glyphosate pour 10 ans. Et il a réussi ce con. On l'a pour 10 ans encore ce pesticide.
Et c'est 10 ans renouvelable.
Oui.
En plus.
Oui. Encore une fois, le gouvernement choisit donc de s'aligner avec les préoccupations de l'extrême droite et de cibler le corps des femmes, plutôt que de se saisir des vraies préoccupations des Françaises, Français, lutter contre la précarité et promouvoir la santé pour tous et toutes. Les raisons de faire des enfants sont nombreuses. Elles sont à la fois intimes et politiques. Mais l'intime est politique. Nos corps nous appartiennent et personne, ni État, ni Église, ni patron, n'a à nous dire quoi faire de nos utérus.
Why can't we live together? That's what we need to know. Here it is.
Together, and we'll live together.
Et oui, ça peut dire bien de revoir un grand chanteur comme ça qui a fait sa carrière dans les années 60, Steve Winwood. Je vous recommande, vous pouvez le trouver sur Internet. La chanson s'appelle « Why Can't We Live Together ?» Ça, c'est en ce moment, on a besoin d'aimer qu'il n'y ait plus de guerre et que tous les peuples se réunissent main dans la main. Voilà. Alors, je vais vous lire un texte qui était envoyé par un camarade de la radio, Jean-Manuel, et c'est tiré d'une... C'est un chercheur du CNRS en linguistique informatique de l'Université Côte d'Azur, M. Damon Mayafre. Et il va vous expliquer comment on peut préparer des allocutions, chaque président prenant une idée un peu de tous les précédents et pour arriver à sortir quelque chose de très très bien, alors qu'il marche dessus comme sur une crotte. Voilà. Alors, Emmanuel Macron est-il devenu un président réactionnaire ? Faisant profession de foi de progressisme, son discours n'est-il pas en réalité empreint de nostalgie et de conservatisme ? La révolution, que le titre de son livre au programme, se rapproche-t-elle de 1789, 1848, 1917, ou plutôt de la révolution conservatrice qui a su dominer l'Europe et le monde dans les années 1980 ? Plus lointainement, la révolution macronienne ne fait-elle pas quelques échos à la révolution nationale du régime de Vichy ? Pardon. Ces discours semblent attestés avec des propos natalistes et réarmement démographique, une restauration de l'autorité et l'affirmation de la triple priorité, l'ordre, l'ordre, l'ordre. L'idée d'un uniforme à l'école et d'une nécessaire préférence nationale face à l'immigration clandestine. Et la résonance lexicale entre Renaissance, avec un R majuscule, que projette le nouveau parti du président, et la Renaissance, avec un petit R, que promettait Philippe Pétain dans ses messages aux Français, après le Front populaire, se révèle troublante. Sensible, dès l'été 2017, avec les ordonnances travail et la suppression de l'ISF, impôt sur la fortune, ce qui serait vraiment très important de la rétablir pour renflouer un peu les caisses de l'État, mais sans renflouer l'armée. Le tournant droitier d'Emmanuel Macron apparaît historiquement peu contestable au fil du temps avec le traitement des Gilets jaunes. La réforme des retraites, la loi sur l'immigration votée avec l'extrême droite ou la composition du nouveau gouvernement Attal. L'hyper-présidentialisme, refus du référendum d'initiative citoyenne, ajournement de la proportionnelle, usage répété du 49-3. Leadership du président sur le gouvernement et le Parlement illustre également une posture conservatrice, sinon autoritaire, loin d'une sixième république ou d'une démocratie représentative parlementaire que d'autres réclament. Pardon. Au-delà de telle ou telle mesure de droite, qu'il faudrait nuancer par telle ou telle mesure de gauche, au nom du « en même temps », c'est l'analyse systématique des discours d'Emmanuel Macron depuis 2017, grâce à Hyperbase, un logiciel de statistique textuelle et d'intelligence artificielle produit par le CNRS et l'Université Côte d'Azur, qui atteste l'inclinaison réactionnaire du président. Parler le Macron. Nos algorithmes ont appris, par comparaison, à parler le De Gaulle, le Pompidou, le Giscard, le Mitterrand, le Chirac, le Sarkozy, le Hollande et le Macron. Et ils sont susceptibles de dire, sans se tromper, les mots préférés des uns, les phrases favorites des autres, les expressions privilégiées par Charles de Gaulle ou par François Mitterrand, la composition grammaticale des discours de Valéry Giscard d'Estaing ou François Hollande, la tonalité idéologique des discours de Nicolas Sarkozy ou de ceux d'Emmanuel Macron. Or, au grand étonnement du linguiste, Hyperbaz révèle qu'Emmanuel Macron a une lettre préférée, une lettre parmi toutes dont l'intelligence artificielle s'empare pour classer, identifier et reproduire à coup sûr des discours du président actuel. Cette lettre fétiche d'Emmanuel Macron, mille fois répétée, par laquelle il convainc son électorat et déroule son idéologie, est la 18e lettre de l'alphabet, la lettre R. Le R, tour en arrière, signature d'Emmanuel Macron. La machine, le R à initiale, c'est-à-dire en début de mot, est statistiquement caractéristique d'Emmanuel Macron. Le préfixe « re » estampille ainsi le discours macroniste pour devenir une arme subtile, une arme politique subtile. Occurrence de « re » dans le discours des différents présidents de la Ve République, distribution statistique du préfixe « re » devant le corpus présidentiel sur utilisation au-dessus de « o », sous-utilisation en dessous. On constate sur une surutilisation massive du « re » par Emmanuel Macron, Hyperbaz 2024. Retrouver, recouvrer, redonner, refaire, reconstruire, restaurer, réinventer, refondre. Les verbes en « re » mettent constamment en marche arrière le discours d'Emmanuel Macron qui entend reproduire un passé idéalisé. Restauration, réarmement, refondation, révision, rénovation. Et les noms en « re » en « re » renvoie inlassablement les auditeurs à la grandeur éternelle d'une France passée qu'il s'agirait de reconquérir. Ah, dur. L'approche quantitative est formelle, elle chiffre précisément la lame de fond des re dans la gorge d'Emmanuel Macron à la hauteur d'un écart réduit de plus 12,6. L'approche qualitative des discours confirme, quant à elle, de cette rhétorique passéiste. Autour de la campagne présidentielle de 2022, en effet, Emmanuel Macron systématise son discours en réaction. Il débaptise En Marche pour renommer son parti Renaissance. Il envisage de réviser la Constitution en créant une quatrième chambre, le Conseil national de la refondation. Mais il est complètement farfelu, ce mec-là. Aussitôt réélu, il crée un nouveau ministère au nom significatif, le ministère du Renouveau démocratique. Le 31 décembre 2023, durant ses vœux, puis lors d'une conférence de presse pour relancer son mandat, il axe son discours sur le martèlement d'un seul mot, réarmement. Réarmement civique, réarmement industriel, réarmement de l'État, réarmement économique, réarmement des services publics, réarmement démographique, etc., etc. Si le linguiste peut être étonné d'un locuteur français, qu'un locuteur français puisse se singulariser d'autre que par le surusage d'un préfixe, et vous, lecteur, croyez-vous avoir une lettre préférée lorsque vous parlez ? L'historien et le politologue interprètent le phénomène sans difficulté. Dans la langue politique, le préfixe « re » est au service d'un discours réactionnaire. Celui « c'était mieux avant », depuis deux siècles, depuis la Restauration de 1814-1815. Quelques mois avant la création par Macron de Renaissance, le leader maurassien Éric Zemmour n'avait-il pas intitulé son propre mouvement « Reconquête » ? Avant que Macron ne l'exprime, Nicolas Sarkozy n'avait-il pas fait de la restauration de l'autorité, notamment la restauration, la restauration de l'autorité du maître d'école, le fondement de son programme de liquidation de l'héritage de mai 68. Selon les études sociologiques électorales, Emmanuel Macron a été porté au pouvoir en 2017, plus encore en 2022, par un électorat vieillissant, issu des classes sociales dominantes. Il s'adresse de manière explicite ou sublimale à un public pour qui la conservation de la hiérarchie sociale en place et le retour à une grandeur mythifiée sont une inclination naturelle. Le fascisme, ce n'est pas une inclination naturelle, ça. Plus généralement, le discours réactionnaire d'Emmanuel Macron n'est-il pas simplement le reflet de la droitisation d'une France contemporaine, inquiète pour son avenir et nostalgique de son passé ? L'étude systématique par l'intelligence artificielle des gros corpus de presse actuels et des débats parlementaires récents que nous entreprenons aujourd'hui au laboratoire pourrait très vite nous renseigner en étudiant la population d'un préfixe RE, bien sûr, et également du préfixe 2 que Gabriel Attal vient de surutiliser dans son discours de politique générale. Déverrouiller, débureaucratiser, démicardiser. Je dirais qu'un mot, on allait dans le mur, mais je crois que là, on est en train de forcer à casser ce mur de la bêtise fasciste. Vraiment. Ils veulent à tout prix que tous les pays redeviennent comme ça. Ça, c'est terrible.
Oui. Alors, j'encourage les auditrices et les auditeurs à acheter deux livres de l'auteur Ira Levin. Le premier, Les femmes de Stepford, parce que il a écrit ce livre en 1972 et l'adaptation très très bien faite deux ans après avec Katharina Ross est excellente. Alors si en 1972 et 1974 il abordait déjà le jeu de dupe pour faire régresser les femmes. Aujourd'hui, c'est d'autant plus. On l'a bien vu, c'est flagrant. Et aussi, ces garçons qui venaient du Brésil, parce que là, c'est vraiment une dénonciation du fascisme en sourdine. Non.
On va faire une petite pause musicale avant que tu lises quelque chose.
Oui, on en a bien besoin.
Plus rien qu'une rage sourde, impossible à hurler. L'horrible impuissance dont il faut s'accommoder. Encore une fois, s'arranger, négocier. Avec le misérablement petit, l'insondable connerie. Encore une fois, arracher des trêves et des compromis aux pouvoirs aveugles et tortionnaires où le mépris et la règle et l'injustice, immonde nourriture obligatoire, obligatoire, obligatoire. La mort par le fast-food. Quel révolutionnaire Kinder surprise. Cette époque va nous fournir. La négation de la mort par le fast-food. Quel révolutionnaire Kinder surprise. Cette époque va nous fournir. Là où le sang n'est plus qu'une image. Là où les odeurs ne sont plus ni violentes ni amères. Là où seul règne les tiédasses sucrées, les pensées peroxydées, les poitrines en plastique, les culs sans odeur, l'argent merde devenu roi, mangeable par l'alchimiste capitaliste, puant l'aftershave et les masques odeurs, l'idole sentira l'horreur de
la pisse. Il signera ses œuvres peintes au sang et à la merde d'un trait, où l'anonyme aura remplacé la rage d'exister. La gesticulation absurde, puant la peur, aura enfin une éthique et des règles. Seuls les plus forts survivront. Le spectacle est réjouissant d'avance. La négation de la mort par le fast-food. Quel révolutionnaire Kinder surprise. Cette époque va nous fournir. La négation de la mort par le fast-food. Quel révolutionnaire Kinder surprise. Cette époque va nous fournir. Plus rien qu'une rage sourde, impossible à hurler. L'horrible impuissance dont il faut s'accommoder. Encore une fois, s'arranger, négocier avec le misérablement petit. L'insondable connerie. Arracher des trêves. Arracher des trêves. La mort par le fast-food. Quel révolutionnaire Kinder surprise. Cette époque va nous fournir. La négation de la mort par le fast-food. Quel révolutionnaire Kinder surprise. Cette époque va nous fournir. La négation de la mort par le fast-food. Quel révolutionnaire Kinder surprise. Cette époque va nous fournir.
Vous allez me demander qui est ce chanteur avec cette voix aussi belle. Eh bien, c'est Guillaume Depardieu. Ce sont 11 chansons que sa sœur, que sa mère et sa compagne ont trouvées et ont éditées. Voilà. Ça s'appelle le post-mortem. Et l'image du CD correspond aussi à un livre qui a été édité, comme ça. Que vous trouvez assez facilement sur les ventes sur Internet. Voilà. Donc, ça s'appelait Fast Food. Voilà. Je voulais juste vous dire un petit mot qui, aussi sur. Ils ont fait un petit encadré sur le nombre de ventes d'armes qu'il y a eu entre 2017 et 2022. Voilà. Les vendeurs sont les États-Unis. À 40%, 17% pour la Russie, France 10%, Chine 3,8%, Allemagne 3,2%, l'Italie 2,6%, Royaume-Uni 2,4%, Israël 2,2%, Espagne 2,1% et Corée du Sud 2%, tout ça en pourcentage. Et les acheteurs sont l'Inde à 11%, l'Afrique du Sud à 10%, le Qatar à 5,5%, l'Égypte à 5%, l'Australie 4,2%, Chine 4%, Corée du Sud 3,8%, Pakistan 3,7%, Japon 3% et les États-Unis 2,2%. C'est bien. Ils vendent et ils achètent aussi. Peut-être que les autres, ils ont du matériel plus intelligent que le leur. C'est pour ça. On ne sait jamais. Hein. Voilà. Alors, tiré du monde diplomatique, un petit encadré, grande accélération de l'armement. Entre 2014 et 2022, les dépenses militaires de la Lituanie ont augmenté de 270%. Celles de la Lettonie, 173%. Les budgets de la défense des défenses en Finlande, Hongrie, Slovaquie, Roumanie et République tchèque explose de même que celui de la Pologne. Ce dernier pays, lui, consacre 4% de son PIB. Il veut doubler les effectifs de ses armées. Il achète aux firmes américaines des chars Abrams, des lance-roquettes HIMAR, des hélicoptères Apache. Il s'approvisionne en chars légers et en obusiers auprès de la Corée du Sud. Ah, ça, c'est un beau feu d'artifice en préparation. Voilà. Donc, Elsa, tu vas pouvoir nous lire un peu de Bertrand de Jouvenel.
D'accord.
Ok. Oui, pendant un petit quart d'heure. Et après, je ferai une annonce pour un spectacle.
Entendu. Alors. Alors, je vous prie de m'excuser pour le petit blanc. Je me suis trompée de page. Ah, voilà. La souveraineté populaire démocratique. Si l'on se donne d'abord un état de nature où les hommes sont tenus par aucune... Pardon, excusez-moi, je reprends. La souveraineté populaire démocratique. Si l'on se donne d'abord un état de nature où les hommes ne sont tenus par aucune loi et possèdent autant de droits qu'ils ont de force... Si l'on suppose qu'ils ont formé une société en chargeant un souverain de faire régner l'ordre entre eux, il faut que ce souverain ait reçu tous leurs droits et l'individu par suite n'en réserve aucun qui soit opposable au souverain. Spinoza l'a bien précisé. Tous ont dû, par un pacte exprès ou tacite, conférer au souverain toute la puissance qu'ils avaient de se maintenir, c'est-à-dire tous leurs droits naturels. Si en effet ils avaient voulu conserver pour eux-mêmes quelque chose de ce droit, ils devaient en même temps se mettre en mesure de se défendre avec sûreté. Comme ils ne l'ont pas fait et ne pouvaient le faire sans qu'il y eût division et par suite destruction du commandement par la même, ils se sont soumis à la volonté, quelle qu'elle fût, du pouvoir souverain. C'est en vain que Locke voudra supposer que tous les droits individuels ne sont pas mis en commun, qu'il en est que le contractant se réserve. Politiquement féconde, cette hypothèse ne tient pas en logique. Rousseau en répétera dédaigneusement la démonstration. L'aliénation des droits individuels se fait sans réserve, et nul associé n'a plus rien à réclamer, car s'il restait quelques droits aux particuliers, comme il n'y aurait aucun supérieur commun qui pût prononcer entre eux et le public, chacun étant en quelque point son propre juge, prétendrait bientôt l'être en tous. Citation du contrat social. Peut-être, s'inquiète Spinoza, pensera-t-on que par ce principe, nous faisons des hommes des esclaves. Et il répond que ce qui fait l'esclave, ce n'est pas l'obéissance, mais d'obéir dans l'intérêt d'un maître. Si les ordres sont donnés dans l'intérêt de celui qui obéit, il n'est pas esclave, mais sujet. Mais comment donc pourvoir à ce que le souverain ne considère jamais l'utilité de celui qui commande, mais seulement celle de celui qui est commandé? On s'est interdit d'avance de lui opposer un surveillant, un défenseur du peuple, puisque lui-même, il est le peuple. Et qu'il ne reste aux individus aucun droit dont ils puissent, contre le tout, investir un corps contrôleur. Hobbes reconnaît qu'on peut trouver fort misérable la condition des sujets, exposés à toutes les passions irrégulières, de celui ou de ceux qui ont entre les mains un pouvoir tellement illimité. Citation Léviathan. Le salut du peuple n'est que dans l'excellence de celui ou de ceux à qui l'on obéit. Qui donc? Alors, pour Hobbes, les hommes, par leur convention primitive, s'engageaient à obéir à un monarque ou à une assemblée, et lui-même inclinait nettement au monarque. Pour Spinoza, il s'engageait à obéir à un roi, à des nobles ou au peuple, et il soulignait les avantages de la dernière solution. Pour Rousseau, il n'y a point de choix imaginable. Les hommes ne peuvent s'engager qu'à obéir à leur totalité. Au lieu que Hobbes faisait dire à l'homme concluant le pacte social « J'abandonne mon droit de me régir à cet homme ou à ces hommes ». Rousseau proposant une constitution aux Corses fait dire au contractant « Je m'unis de corps, de biens et de volonté et de toute ma puissance à la nation corse pour lui appartenir en toute propriété, moi et ce qui dépend de moi ». Dès que l'on postule un droit de commander qui n'a point de borne et auquel le particulier ne saurait rien opposer, conséquence logique de l'hypothèse du pacte social, il est infiniment moins choquant de supposer ce droit appartenant à tous collectivement qu'à un seul ou plusieurs. Cela est moins choquant, mais il ne s'ensuit nullement que la liberté individuelle doive être plus grande, comme Aubas l'a remarqué devant Montesquieu et Benjamin Constant. La liberté, dont il est fait de si fréquentes et honorables mentions dans les histoires et la philosophie des anciens Grecs et Romains, comme dans les écrits et le langage de ceux qui ont appris la politique chez les anciens, n'est point la liberté des particuliers, mais la liberté de l'ensemble. Athéniens et Romains étaient libres, c'est-à-dire que leur cité était libre, et non pas que les particuliers pouvaient résister à leurs représentants, mais que leurs représentants étaient libres de résister à d'autres peuples ou de les envahir. Aujourd'hui encore, sur les tourelles de la cité de Luc, on peut lire en gros caractères le mot « libertas ». Cependant, nul n'en peut inférer que le particulier y a plus de liberté ou plus d'immunité à l'égard des exigences de la République qu'il n'y en a à Constantinople. Qu'un État soit monarchique ou populaire, la liberté est toujours la même. Comme ses prédécesseurs, Rousseau estime que la souveraineté est constituée par le transfert sans réserve des droits individuels qui forment un droit total, celui du souverain, droit qui est absolu. C'est le point commun aux théories de la souveraineté du peuple. Mais à Aubas, il semblait qu'un transfert de droit suppose quelqu'un à qui ses droits soient transférés. Un homme ou une assemblée dont la volonté, attributaire du droit total, passerait désormais pour la volonté de tous, serait juridiquement la volonté de tous. Spinoza et d'autres ont admis que le droit total pouvait être attribué à la volonté d'un seul, de plusieurs ou de la majorité. D'où les trois formes traditionnelles, monarchie, aristocratie, démocratie. Selon ces idées, l'acte constitutif de la société et de la souveraineté constitue ipso facto le gouvernement qui est le souverain. Et, à d'excellents esprits, il a paru impensable que, l'hypothèse fondamentale étant admise, les choses se déroulassent autrement. Rousseau, cependant, nous dit que les individus se font peuple par un acte premier et se donnent un gouvernement par un acte subséquent. De sorte que le droit total, la souveraineté, le peuple, qui, dans les systèmes antérieurs, l'a donné en la créant ici, la crée sans la donner et en reste perpétuellement investi. Rousseau admet toutes les formes de gouvernement, trouve la démocratie convenable aux petits États, l'aristocratie aux médiocres, et la monarchie au grand. Citation du contrat social. Une dynamique du pouvoir. Mais en tout cas, le gouvernement n'est pas le souverain. Rousseau l'appelle le prince ou le magistrat, dénominations qui peuvent s'appliquer à un ensemble d'hommes. Un sénat peut être le prince, et dans la démocratie parfaite, le peuple lui-même est le magistrat. Ce prince ou magistrat commande, il est vrai, mais non pas en vertu du droit souverain, de cet imperium sans borne qu'est la souveraineté. Non, il ne fait qu'exercer des pouvoirs qui lui sont conférés. Seulement, une fois conçue la souveraineté absolue, une fois son existence affirmée dans le corps social, la tentation et la possibilité sont grandes pour le corps gouvernant de s'en emparer. Quoique Rousseau ait eu grand tort, à notre avis, de supposer l'existence d'un droit si excessif, où qu'on le situe, sa théorie a le mérite de rendre compte de la croissance du pouvoir. Il apporte une dynamique politique. Rousseau a très bien vu que les hommes du pouvoir forment corps, que ce corps est habité par une volonté de corps et qu'il vise à s'approprier de la souveraineté. Pour que le corps du gouvernement ait une existence, une vie réelle qui le distingue du corps de l'État, pour que tous ses membres puissent agir de concert et répondre à la fin pour laquelle il est institué, il lui faut un moi particulier, une sensibilité commune à ses membres, une force, une volonté propre qui tende à sa conservation. Cette existence particulière suppose des assemblées, des conseils, un pouvoir de délibérer, de résoudre, des droits, des titres, des privilèges qui appartiennent au prince exclusivement. Citation du contrat social. Plus cet effort augmente, plus la constitution s'altère. Et comme il n'y a point ici d'autre volonté de corps qui, résistant à celle du prince, entendez du pouvoir, opprime enfin le souverain, le peuple, et fasse équilibre avec elle, il doit arriver tôt ou tard que le prince, le pouvoir, opprime enfin le souverain, le peuple, et rompe le traité social. Tel est le vice inhérent et inévitable qui, dès la naissance du corps politique, tend sans relâche à le détruire, de même que la vieillesse et la mort détruisent enfin le corps de l'homme. Cette théorie du pouvoir marque une avance énorme sur celle que nous avons jusqu'alors examinée. Elles expliquaient le pouvoir par la possession d'un droit illimité de commander, qu'il émana de Dieu ou de la totalité sociale. Mais on ne voyait pas dans ces systèmes pourquoi d'un pouvoir à l'autre, d'une époque à l'autre de la vie du même pouvoir, l'étendue concrète du commandement et de l'obéissance s'avérait tellement variable. Dans la forte construction de Rousseau, on trouve au contraire un effort d'explication. Si ce pouvoir, d'une société à une autre, prend une étendue différente, c'est que le corps social, seul détenteur de la souveraineté, en a plus ou moins largement concédé l'exercice. Surtout si un même pouvoir varie en étendue au cours de son existence, c'est qu'il tend incessamment à usurper la souveraineté et, à mesure qu'il y réussit, dispose plus librement et plus complètement du peuple et des ressources sociales. De sorte que les gouvernements les plus usurpateurs présentent le plus haut degré d'autorité. Mais ce qui n'est pas expliqué, c'est d'où le pouvoir tire la force nécessaire à cette usurpation. Car si sa force lui vient de la masse sociale et de ce qu'il incarne, la volonté générale, il doit arriver que sa force diminue à mesure qu'il s'écarte de ladite volonté générale et son autorité doit s'évanouir à mesure qu'elle se distingue du vœu général. Rousseau pense que le gouvernement, par une pente naturelle, passe du grand nombre au petit, de la démocratie à l'aristocratie. Il cite l'exemple de Venise et enfin à la monarchie, qui lui semble l'état final d'une société qui, en devenant despotique, cause enfin la mort du corps social. L'histoire ne nous montre nullement qu'une telle succession soit fatale. Et on ne comprend pas d'où un seul tirerait les moyens de faire exécuter une volonté de plus en plus complètement séparée de la volonté générale. Le vice de la théorie, c'est son hétérogénéité. Elle a le mérite de traiter le pouvoir comme un fait, un corps siège d'une force, mais elle considère encore la souveraineté comme un droit, à la mode médiévale. Il y a là un imbroglio dans lequel la force du pouvoir reste inexpliquée et les forces qui, dans la société, peuvent la modérer ou l'arrêter, restent inconnues. Quel progrès néanmoins sur les systèmes précédents ! Et, sur des points essentiels, quelle clairvoyance !
Merci Elsa. Il va y avoir la semaine prochaine, le 14, le 15, le 16 et 17 mars, à Montreuil, pour le printemps des poètes, à Couleur d'Orange, 9 rue Barbès, 93 100, Montreuil. Il y aura 4 soirées consacrées à, le 14 mars à Patrick Denis, le 15 à Jacques Cerisier, le 16 à Vania Adrien Sens et le 17, dimanche 17, Banarayan. Donc, les 3 premières soirées, il y aura un spectacle à partir de 20h et les Banarayan pour le 17 mars, ce qui est un tombé dimanche, ce sera à 17h. Donc, pour réserver, c'est conseillé parce qu'il va y avoir énormément de gens et les 4 soirées seront présentées par Madame Danielle Denis, Nathalie Solance, Daniel E. Adrien Sens et Monique Ayan. Donc, la réservation est conseillée au 09 60 00 40 41 09 60 00 40 41 ou par mail remonter la rivière tout attaché @orange.fr. Voilà. Donc, venez parce que là, vous pourrez, même si vous arrivez avant 20h, je vous conseille, dans l'après-midi, vous pourrez trouver pour ces quatre merveilleux chanteurs des disques, des DVD, des livres, plein de choses, et parler avec justement ces dames qui ont connu, qui ont vécu avec ces personnes-là. Nathalie Solens a été la compagne de Jacques Cerisier, donc c'est pour ça qu'elle est présente avec eux. Il y aura plein de chanteurs qui sont venus, tous des amis de longue date qui ont fait des cabarets comme ça. Voilà, donc n'oubliez pas, le 14, 15, 16 et 17 mars à Couleur d'Orange, 9 rue Barbès, 9300 à Montreuil. Voilà. J'espère que cette émission vous a plu et qu'on vous a donné encore plus l'envie de ne pas aller, de ne pas envoyer vos enfants, filles ou garçons, au SNU et surtout ne plus adhérer à la malbouffe. Et surtout, faites très attention à ce que vous buvez. Donc, achetez plutôt des appareils qui filtrent l'eau. Pour avoir une eau où ça retient presque 80 à 90% toutes les matières, les saloperies, parce que dans l'eau que vous consommez, Evian et autres, il y a même des produits, des médicaments qui ne sont pas dissous et qui tombent dans les nappes phréatiques. Donc nous, on essaie d'avoir, on a un petit appareil pour faire de l'eau filtrée. Ça. Mais on compte acheter un autre appareil qui est encore plus puissant. Mais bon, c'est selon le prix, il faut vraiment mettre un petit peu d'argent de côté. Mais déjà, ce qu'on voit actuellement, déjà, on sent la différence entre l'eau du robinet et comme ça.
Oui, ça évite d'avoir du dépôt de mercure qui noircisse les dents, faisant croire qu'il s'agit de caries, alors que ce n'est pas le
exact.
Cas.
Exact. Voilà. Bonne soirée à tous. Et jeudi prochain, il y aura un autre numéro de Si vis pacem.
Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. et le pays reconnaissant l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Réprimez-moi si vous voulez, à cause de mes cheveux trop longs, à cause de ma gueule arrogante au passage des quarts de poulet. Donnez-moi des coups de pied dans le fion, des coups de bidule dans les roustons, puis enfin traitez-moi de dente, faites-moi une tête bien rasée. Comme les nazis en l'an 40, vous n'aurez pas ma fleur, celle qui me pousse à l'intérieur. Fleur cérébrale et fleur de cœur, ma fleur. Fleur de cœur, ma fleur. Vous êtes les plus forts, mais tous vous êtes morts. Et je vous emmerde. Réprimez-moi si vous voulez, pour avoir essayé d'aimer. Sur les pelouses interdites, hors des institutions sacrées. Sacré nom de Dieu, c'est meilleur, essayez pour voir et puis dites. Divorcez-moi, châtrez-moi le cœur et puis le reste aussi, quel bonheur. Et mangez-les avec des frites, vous n'aurez pas ma fleur. Celle qui me pousse à l'intérieur. Fleur cérébrale et fleur de cœur, ma fleur. Fleur de cœur, ma fleur. Vous êtes les plus forts, mais tous vous êtes morts. Réprimez-moi si vous voulez. Être différent, c'est un crime. Être noir ou jaune ou béni, ne pas respecter votre frime. Avez-vous une fois seulement songé que la haine s'abîme, alors que l'amour ça détend, que ça mange des ponts tout le temps. Mais bien sûr, c'est un gros péché, vous n'aurez pas ma fleur. Celle qui me pousse à l'intérieur. Cérébrale et fleur de cœur, ma fleur. Fleur de cœur, ma fleur. Vous êtes les plus forts, mais tous vous êtes morts. Et je vous emmerde. Vous n'aurez pas ma fleur, celle qui me pousse à l'intérieur. Fleur cérébrale et fleur de cœur, ma fleur. Fleur de cœur, ma fleur.
N'importe où, de nulle part. Et d'ailleurs, on s'en fout. Nous, on avait appelé l'or, l'habit rouge, de cristal et de feu. Flocs éclatés comme l'amour et la lumière. Fabuleux, il marchait, s'avançant dans le soleil. L'homme en habit rouge, je l'avais rencontré là dans un bar. Sur le palais, des fleurs aux parfums étranges et qui semblait l'envoyer jusqu'aux anges. Qui es-tu? D'où viens-tu? Miraculeusement apparu. Dis-moi, 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 d'autre part, de nulle part. Dis-moi, quel est ton pays, l'homme des rouges? Il m'a dit, viens, je te ferai connaître ce pays d'où tu pourras enfin être. Et j'ai vu des fleurs aux couleurs étranges, et j'ai cru entendre chanter les anges. Fascineur, en beauté, j'ai suivi l'homme, celui-là en habit rouge. Je marchais près de lui, le rubis velours, et sur le corps des pavots rouges, de cristal et de feu. Fleurs éclatées comme l'amour à la lumière. Je suivis, j'aimais. Avec lui, je vivais ma vie en habit rouge. Et puis, il a disparu à soi pour une planète encore plus bizarre. Fumer des fleurs aux parfums étranges. Il a fini par rejoindre les anges. Apparu, disparu. Magicien du matin, surgit de la lumière. Rendez-moi l'homme qui faisait ma vie en fleur de feu, bravo rouge. Mon habit se ternit, mes fleurs se fanent, j'ai perdu ma lumière. Rendez-moi.
C'est Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4, Yves au micro. Ce soir, une émission enregistrée avec très peu de nouveautés, mais un gros focus sur un coffret superbe. Je vous en dirai plus tout à l'heure, dans un instant. Donc, vous pouvez vous connecter sur ma page Facebook Yves Jazz Libre. Vous pouvez m'envoyer un mail à dk51@sfr.fr si vous avez besoin d'informations. N'oubliez pas que Jazz Libre est sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste 89.4. Vous pouvez avoir l'ensemble des informations, des programmes, de l'agenda sur le site de la radio, radiolibertaire.network, je sais plus, enfin bon, vous tapez Radio Libertaire. Vous avez l'agenda, l'ensemble des émissions, les podcasts disponibles 12 mois après fin de diffusion, et vous pouvez également les télécharger en format MP3. Voilà, comme je vous le disais, c'est une émission... Oui, pardon, excusez-moi, il faut absolument que vous nous souteniez. Vous allez sur le site de la radio, vous téléchargez la souscription et vous donnez ce que vous pouvez. On a toujours besoin de votre soutien, de votre support pour maintenir une radio de qualité et d'entretenir le matériel qui a évidemment... Comme tout, ça s'use. Voilà, c'est parti pour la suite. Donc ce soir, peu de nouveautés. Nous allons nous consacrer sur le magnifique coffret de Lee Morgan dont je vais vous parler dans un instant. Mais en termes de nouveautés, je reviens sur l'album Shadow du pianiste Gaël Racotte.